Franco et Pierre Stonebelflack présente. Itinéraire, une œuvre radiophonique créée et produite par l'Astico Fondation. Stanislas Kapusta. Hervé Gadras.
Hervé Gadras?
Hervé Gadras, oui, madame.
Ah!
C'est un artiste, madame.
Un artiste?
Oui, madame. Écrivain.
Un écrivain?
Oui, madame. Lituanien.
Lituanien?
Et compositeur, madame.
Un artiste, un écrivain, lituanien, un compositeur? Compositeur russe, alors?
Pas du tout. Je ne composais pas du tout en Union soviétique. J'ai commencé en France. J'ai commencé exactement la composition en 65. Disons qu'au niveau pensée pure, au niveau esprit, c'était très attentif, très vite, tout de suite. Ce déclic, on peut parler de déclic finalement, qui s'est produit en moi à cette période, donc en 65, ce déclic a fait finalement que je me suis lancé dans la composition. Un ami à moi, qui était aussi lituanien, m'a fait remarquer une fois qu'il y avait une certaine, coïncidence au niveau de mon nom. Il avait remarqué que mon nom était l'anagramme de Edgar Varèse. Oui, la première coïncidence, il m'a dit, donc c'est rigolo, ton nom c'est l'anagramme d'Edgar Varèse, hormis le H, une lettre près donc. Et deuxième coïncidence, c'est peut-être la plus terrible finalement, c'est que le jour où cet ami m'a dit ça, ça correspond à la date de décès de Edgar Varèse. C'est-à-dire, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est le 6 novembre 65 où Edgar Varèse est mort à New York. Évidemment, lorsque j'ai appris cette nouvelle, il s'est produit quelque chose. J'ai senti tout de suite que, en quelque sorte, cette nouvelle qui coïncidait avec la mort d'Edgar Varèse était pour moi un signe, un message. Finalement, ce message me disait, c'est toi qui vas prendre la relève de Edgar Varèse. Et là, je l'ai senti très vite et tout de suite. Et il a fallu absolument, je me suis dit, donc il va falloir que je compose finalement. évidemment, la réponse que je peux donner maintenant, elle est forcément influencée du fait que j'ai senti ce signe le lendemain de la mort de Varèse. Complicité, je n'y irai pas jusque-là quand même. Complicité. Mais disons qu'il y avait quand même quelque chose qui s'est produisé lorsque j'écoutais Varèse. Je ne pourrais pas tellement expliquer quelque chose. Je me suis dit peut-être que ce que j'ai ressenti à l'époque à l'époque où j'écoutais Varèse avant sa mort, peut-être que ce que j'ai ressenti à ce moment-là, peut-être bien que c'était l'absolue complicité. Mais c'est aussi très difficile de répondre, c'est peut-être aussi un peu trop facile de dire c'était l'absolue complicité. C'était quelqu'un que je regardais du dehors, finalement. Je l'observais, mais il n'a absolument pas influé dans ma démarche musicale, absolument pas, non. Je crois que toute ma démarche musicale était purement originale et l'œuvre de moi-même, de l'individu que je suis. De toute façon, je ne veux pas tellement parler de cette période, ça m'intéresse pas trop. D'ailleurs, de 65 à 76, qui était donc toute cette période qui était rattachée plus ou moins à Varèse, elle est toujours, mais c'est différent. J'expliquerai peut-être après. C'est que finalement, j'ai détruit toutes mes œuvres entre 65 et 76. Et là aussi, il y a une autre révélation. C'est l'époque où j'ai rencontré Léopold Franco. C'était l'époque où il faisait des tas d'études sur les couleurs, sur l'influence des couleurs sur le comportement humain, ainsi de suite. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Et lorsqu'il m'a appris hier, cette découverte, finalement, c'était une découverte pour moi. C'était des choses que je ne connaissais pas. Je me suis dit, tiens, peut-être bien que tout ce qui n'allait pas, finalement, entre 65 et 76, si j'ai détruit aussi toutes ces œuvres, c'est parce que il y avait des choses qui n'allaient pas, ça n'allait pas. Et je commençais quelque chose, ça allait très bien, et puis je ne trouvais pas, finalement, ça aboutissait toujours sur quelque chose de très mauvais. Et je comprenais pas. J'ai dit, comment ça se fait? C'est pas possible. Déjà, je suis parti sur une telle, comment dire, je m'embrouille un peu. Je veux dire que en moi il y avait la certitude d'arriver, d'aboutir à quelque chose, et je n'arrivais pas à la concrétiser. Et c'est ce que j'ai compris lorsque j'ai rencontré Léopold Franco, lorsqu'il m'a fait découvrir cette réalité sur la couleur et l'influence de la couleur sur le comportement humain. Je me suis dit, c'est ça, c'est pas possible, c'est ça. Pas exactement à cette époque-là, à l'époque 65-76, il n'y a jamais eu de uniformité au niveau de la couleur, au niveau de l'environnement. Il n'est jamais arrivé une seule fois que l'environnement de des couleurs soit parfaitement uniforme, finalement. Et c'est ça que j'ai remarqué. Je me suis dit, c'est pour ça que mes œuvres n'étaient pas bonnes, que je n'arrivais pas à trouver le lien entre moi-même et et la création, finalement. Il n'y a qu'après, donc, lorsque j'ai découvert cette fantastique découverte, justement, je me suis dit, c'est ça. Sans même essayer, je me suis dit, c'est ça. Et j'ai donc détruit toutes mes œuvres, et je me suis dit, je repars, et cette fois-ci, je vais appliquer toutes ces méthodes. Je vais prendre des environnements uniformes au niveau de la couleur, qui correspondront approximativement à mon état d'âme du moment, et donc je suis sûr que ça va marcher. Et en fait, ça a marché. On peut appeler ça méthode. Pour expliquer, on peut dire que Léopold Franco, donc, qui a énormément étudié, surtout à cette époque-là, sur l'influence de la couleur, sur le comportement, a créé, un oracle chromatique.
Découper soigneusement les cartes. Préparer trois pigments. Par exemple, encres primaires et leurs pipettes.
En fait, qui était destiné de la même manière que le Viking, par exemple, servait en fait de guide pour que chacun qui utilise l'oracle chromatique parvienne à approcher son propre spectre intérieur qui est au fond de chacun de nous. Donc, c'est-à-dire que à chaque état d'âme correspond une couleur favorable. Oui, évidemment, il y a une relation indiscutable entre donc ces vibrations de la lumière et les vibrations intérieures et la rétine jouant le rôle de transmetteur en quelque sorte. Et donc, c'est grâce à cet oracle que j'ai pu trouver mon propre spectre personnel au niveau chromatique, et que j'ai donc pu commencer ma période chromatique. Je veux préciser quand même que cet oracle n'est qu'un guide. Votre solution s'y trouve, ça doit vous aider à trouver la solution. Là, ça m'a évidemment énormément aidé. J'ai très vite trouvé donc les bonnes vibrations intérieures et extérieures, et j'ai su très vite comment adapter ces vibrations, cet environnement coloré à mes vibrations intérieures qui étaient à cette époque-là, donc la composition musicale, axée sur la composition musicale. C'est-à-dire que comment je pouvais savoir, c'était purement instinctif, intuitif. Oui, donc si j'étais dans un environnement bleu, si mon état d'âme, mes vibrations d'état d'âme ne correspondaient pas à cette couleur, il y avait une réaction au niveau de mon esprit. Un rosier rétinien, c'était exactement le terme. Et donc, je savais que ce n'était pas cette couleur qui me convenait. Je transformais absolument tout ce que pouvait voir mon œil autour de moi. Absolument tout. Les murs, les meubles, les vêtements, tout. Et bien sûr, c'est nécessaire, sinon ça ne sert à rien. C'est-à-dire que, donc, si c'était la période bleue, je me vêtais entièrement bleu. Je faisais repeindre tous les murs, le plafond, le plancher en bleu, les instruments, les casseroles, absolument tout, enfin tout ce qui était autour de moi. Les fenêtres étaient aussi peintes en bleu.
Le mélange ainsi obtenu vous donnera votre couleur bénéfique.
Et donc je transforme absolument toute l'habitation.
À cet instant précis.
Dans la couleur qui correspond à mon état d'âme, au moment précis où je dois composer.
Et pour un temps donné.
Retrouver des périodes anciennes, ça c'est très possible. Évidemment, j'ai eu trois périodes bleues, par exemple, hein, qui se sont échelonnées entre 76 et 78. Et il y a eu trois périodes bleues qui ont été peut-être 3 mois, puis 15 jours, puis 6 mois. Tout se chevauche, se mêle, il y a absolument toutes les fonctions de mon esprit et de mon état d'âme. Et je ne suis pas, c'est-à-dire que je change pas systématiquement à chaque fois. Je peux très bien rester un an dans un appartement, comme ça s'est produit en 77. Je restais à peu près un an dans l'appartement, il a été repeint et refait cette fois, oui.
Oh.
juste après donc la destruction de toutes mes œuvres, la première couleur qui m'a apparu, c'est le kaki, qui a duré d'ailleurs 3 mois. Et la première œuvre, c'est donc Perdition rectifiée pour 6 instruments, dont 2 en panne. Bien sûr, ce n'est pas du tout pareil que si j'avais appelé ça pour 4 instruments. Ce n'est pas parce que ces instruments étaient en panne qu'il ne faut pas les considérer. Il n'y a qu'une raison. Et pour qui sait l'entendre, c'est audible, évidemment. C'est des appareils qui étaient en panne, donc qui ne fonctionnaient pas, mais qui sont en voie de fonctionnement.
Esquisse en vue de l'élaboration du manifeste Stico ou la nouvelle ère par tous les moyens. Monsieur, en vertu de la loi première de Stico, qui stipule que nul n'est censé ignorer Stico, je vous prie de considérer cette lettre comme un ultimatum. En effet, si l'on part du principe que la majeure partie de ce qu'on appelle communément les gens n'est que la reproduction intégrale, je dis bien intégrale, des êtres qui les ont précédés, on peut affirmer sans grand risque de se tromper que leur existence n'a strictement aucun intérêt, puisqu'ils représentent des êtres déjà morts et dont l'existence n'offrait déjà pas le moindre intérêt. Je passe volontairement sous silence l'inexistence de l'influence qu'ils ont pu avoir sur leurs descendants. De ce fait, il me paraît essentiel et primordial de lancer au plus tôt la chasse à l'astico. Dès réception de la présente, donc, vous avez tout pouvoir concernant l'exécution systématique de toute personne ne répondant pas aux critères mentionnés dans le premier décret de Stico en date du 31 août 1982. C'est-à-dire, toute personne dont la réponse au déterminisme est supérieure à 12%, toute personne ne pouvant dans la minute qui suit prouver son caractère d'unicité, toute personne dont le présent et l'avenir sont constitués du passé, toute personne n'acceptant pas la folie comme forme d'expression première, toute personne ne pouvant immédiatement donner une définition sinon astucieuse et intelligente, tout au moins intéressante, au concept unicité, complicité, lucidité, création, imaginaire, folie, divin, être, moi. Toute personne dont le fourbi buccal, ce qui chez l'homme et le stico en particulier se nomme langage, s'orne des mots et expressions suivants. Nostalgie, rétro, c'était le bon temps, mérite, admiration, tuer le temps, passer le temps, faut bien s'occuper, social, médaille, masse. Tout ceci, bien sûr, vous l'aurez compris, ne constitue qu'une faible partie de la liste du manifeste, dont l'intégralité nous reste réservée. Le stico-recteur, avec la permission de ses complices.
Dans ces ténébreuses années de fin de siècle, une étincelle vacille. Un astre nébuleux prend sa route, ronflant de ses soupapes multiples, armant ses pistons fébriles et féconds pour l'itinéraire final. Fondu d'or et de carmina, il rompt la faille du néant et s'accroche à la vespéra, à l'attente qui, comme un clin, annonce la perdition proche. Cette lueur, c'est Stico, Stico renouveau, Stico coup de plumeau qui fait le ménage du monde et lave la vaisselle de Dieu qui encore nie et dénigre le malheureux, le magique cirque de l'électron. Stico, roi des châteaux, dernière vérification, se lubrifie et lance sa verge vaine vers les esprits en rue qui cohabitent dans son plan. Les archontes n'ont rien inventé, nous non plus. Mais nantis du pouvoir du moi, nous assurons, armés d'armure, de foudre, la relève du rêve. Stico, c'est l'anticulte social. C'est la solution sans le problème. La question sans la réponse. Le mensonge est pris de vérité. Le règne aléatoire de la compromission contrôlée. Stico fait de l'art par sa seule respiration. Stico fait de l'âme par sa seule inspiration. Stico vit, et c'est tant mieux.
Et il y a deux origines finalement. Une première qui a été suite à une révélation que j'ai eue en lisant un auteur américain qui s'appelle Henry Miller, qui dans un de ses ouvrages qui s'appelle d'ailleurs Big Sur, dans cet ouvrage donc où il cite cette phrase: du moment que l'homme cesse de croire qu'un jour viendra où il se changera en Dieu, on peut être certain qu'il est mûr pour se changer en asticot. Et c'est surtout ce terme asticot à la fin de cette phrase qui m'a fait beaucoup rire, évidemment, car j'ai trouvé ça une trouvaille magnifique pour qualifier l'homme, finalement, l'homme asticot. J'ai trouvé ça très beau lorsque j'ai lu ça, et ça m'a... Et en plus, dans cette phrase où il y a l'apparition du terme Dieu, où Miller finalement dit que tout homme est Dieu, et s'il ne le sait pas, il n'est bon qu'à rester asticot. Alors donc, asticot, c'est le terme qui m'a beaucoup plu. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, qui n'est pas asticot, alors esticot. Et j'ai trouvé ça, l'opposition donc, entre l'asticot, qui est l'homme commun, et le sticot, qui est donc l'opposé, c'est-à-dire l'homme Dieu.
Le jour où les machines se souleront. Par la magie de la manette. Le jour où les machines se souleront, je croirai en la magie de la manette.
Pour la graphie du terme stico, j'ai pensé aussi, autre coïncidence qui est assez étrange d'ailleurs, j'ai pensé à un terme qui est typiquement lituanien, que nous employons lorsque j'étais enfant surtout, et c'est ma mère qui employait ce terme, ma mère qui est russe, et donc ma mère qui était russe et qui employait très souvent ce terme qui est très, comment dire, pas microcosmique, mais je veux dire, qui fait partie d'un petit rayon autour d'une ville. Et le terme, c'est stico. Et c'est écrit S-T-Y-K-O.
Le jour où les machines se souleront, je croirai à la machine de la manette.
Je hais Dieu. Je hais Jésus, je hais les apôtres, je hais le Saint-Esprit, je hais... Je me demande de quelle couleur étaient les seins de Marie.
Stico, qui est une intersection, et qui en fait veut dire, qui peut être traduite approximativement par « c'est vrai » dans le sens de lucide. Ce qu'il faut retenir dans le terme stico tel qu'il est employé chez nous, c'est la lucidité finalement. Et justement, il y avait là quelque chose de très, très surprenant. Oui, donc il y avait l'opposition du stico homme-dieu avec l'astico, l'homme commun, l'homme bas, astico justement. Et donc l'homme Dieu qui finalement était rattaché à moi, ce que j'appelais la lucidité.
Mesure. Les raisons. Son prétendu pour la nouvelle politique ouverte plein, le gouvernement de Charles Auguet paie après le rejet. Artiste basque.
Poème stico. Avertissement. Suite à l'interpellation d'un asticot demandant audience sous la forme triviale d'un porte-clés, objet honteux s'il en fut, au concept idiot et odieux, bêtement intitulé « Le secret du bonheur », formule asticot par excellence, la relique reste à la disposition de tout stico en réclamant la consultation. Hervé Gadras est interrogé. Plusieurs écrits sont nés. Les voici. Mélo dit du bonheur.
Le sceau crée du bon beurre. Prenez une vache, tirez-lui la queue, elle pondra du beurre. Prenez du beurre, tirez-lui la motte, il créera un puits. Prenez un puits, tirez-lui le 14, il restera étroit. Prenez un 3, tirez-lui le cheval, il pondra des laines. Hélène, Hélène, oui mon Achille, sors le beurre, il va être gelé. Prenez un ange aile, un autre convient aussi. Tirez-lui une belle balle dans l'aile, belle, elle gèle et balle, bel et bien. Quelle extase chez les Troyens lorsqu'ils virent qu'Achille n'était qu'un leurre. Un bon leurre. Prenez un Troyen, tirez-lui la tête et gobez l'intérieur. Prenez un lys, montez-lui dessus et criez « Ulysse !» Il n'avancera pas. « Ulysse, Ulysse, où est ma Pénélope ? Quel est le creuset du bon leurre ? Le secret du bon beurre, mais il pourrait mieux faire. »
Absolument pas, non. Ce n'est pas un anagramme d'Hervé Gadras. Ça l'est en esprit, oui. Mais j'aime beaucoup, j'adore Biffard. C'est absolument merveilleux, merveilleux. Et émouvant surtout. Dans l'idée, l'état d'esprit stico, il n'y a pas de maître. L'admiration n'existe pas. On n'a pas à se prosterner devant qui que ce soit. L'admiration n'existe pas. On a simplement considéré les êtres, les compositeurs, les artistes comme des... Bien sûr, on peut être complice, oui, mais sur un pied d'égalité. Mais pour Biffard, je crois que c'était tellement fort comme complicité. Je me demande même s'il n'y a pas l'absolue complicité chez Biffard. Et donc, je disais que c'était tellement fort chez moi que je n'ai pu résister à faire une œuvre en hommage à Captain Biffard, et une œuvre que j'ai intitulée Sergent Précis. Oui, et ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Thank you.
Poème Stico, Hervé Gadras. Mélodie du bonheur. Suite.
Les œufs créent de bonheur. De la même façon que le seau crée du bon beurre, les œufs créent de bonheur, mais créent quoi ? On ne sait, ils secrètent en secret de piètres résolutions décrétées par des secrets aux arrêts, ils le méritent. Les singes ont découvert une faille que l'âne qui la cachait n'a pas devinée. Quel dommage! Tant de choses en elle à voir comme des maléfices ou autres fils en mâles de malice, des lysomas filent en fil de mille mâles, des mâles filles, de lys et fils de rats malice. Un œuf se couche tôt et se lève tôt, un œuf comme 3 et 3 et 4 et 5 pond mâle vespéralement. Si l'œuf ne pond pas la poule, le 9 pond des chiffres, chiffres et chiffres, perdant de l'air et fiche chiche dont l'effet est hache et tâche. Molle et mou et molle, un chiffre molle que crée l'œuf de bonheur.
Pour reprendre une de mes expressions qui concerne plus spécialement l'art, j'avais dit une fois que l'artiste crée pour lui et pour les autres. Et finalement, il ne faut pas entendre par cette phrase, il faut entendre qu'il y a une complicité, qu'il y a un échange. Avant tout, c'est pour lui tout de même. Je pense qu'à la base, l'art, en partant de l'absolue complicité de Léopold Franco, je crois que l'artiste cherche l'absolu complice et que finalement chaque œuvre créée par lui porte l'empreinte, est une sorte d'appel, dirais-je, porte l'empreinte de lui-même, donc est un appel vers l'absolu complice qui est quelque part. Peut-être que jamais l'absolu complice touchera à l'œuvre de l'artiste.
D'un film, donc
Et par un partenaire, il y a pas un autre. Un relais télétemporel, en quelque sorte, à plusieurs
conditions. Après, là, je
suis persuadé qu'elle existe.
Oui, certainement.
Au fond, il y a un relais important, puisqu'il avait la mémoire intégrale, les compléments de moi je parle.
C'est un peu une carte de vie.
Celui qui avait un truc en lui, la mémoire intégrale,
les compléments. J'ai eu besoin de devoir présenter.
Pour occuper son esprit dans le sens de la survie de son corps,
pas simplement éviter des gens aussi,
et
mais
dans le sens de la survie,
il est difficile
face à l'agression.
Lui a redéfini un vital qui est absolument fragile, qui est
obligé de constater qu'il ne savait plus se servir de sa mémoire
profonde.
Et ceci depuis tellement longtemps qu'une partie en était peut-être même éteinte.
Et justement, la façon dont on a redéfini ce vital pour l'enfant.
Quack.
ou le regard sur mon introversion et cette inaptitude à la passion pour les gens comme pour les plaisirs du corps, quels qu'ils soient. Conditionné ou simplement né pour la vie intérieure, je suis condamné à l'orgasme introspectif. Ma seule issue est la recherche de la connaissance suprême, ma seule quête possible dans l'immatérialisation. Je me serai alors débarrassé de ce corps inutile, l'esclave de mon âme, pour lequel je suis pourtant si craintif. Léopold Franco. Postscriptum. Poac me libère enfin de l'impact vital. Je suis donc maintenant en mesure d'aller au bout des choses et d'extirper l'anti-moi-même de mon moi social. Léopold. 3 points de suspension. Au ciné. Franco.
Mélo, dit du bonheur, suite. Lait, sucre et tube, honneur. Je dis ce que je suis, ce que tu sais être, comme étant su et dit, c'est-à-dire stupide stupeur d'un homme omis comme momie au midi divin d'un lundi gris. Il avala ce qu'il lave à la fin d'un livide lit vide, sans âme, où sans amour sa rachère, sa rachérie. Je m'en fous, il s'en fout, plein du sang fou de ce sperme hâté, permuté. Cigarette que cigarate, en tentant Satan, amulette à molette ou allumette à lunette. Cajara ou rage à cas démoniaque d'un piteux capitaine, ivre et fier du quelconque con. La voiture est là et ta voilure, mère si merdique, objet abject, saleté salée. Le délire se mire lorsque le spasme passe, les vêtus se toussent et le feu les tue tous. Tragique et trave, en transe, sanglant, sanglant, dans un monde immonde où chaque chacal altéré bave sa rage et charge l'orage. Elle fait des paix dans le noir, dans le soir, et à bien y voir, ils ne sont pas mauvais, c'est paix, c'était en Côte d'Ivoire, mais elle n'était pas noire, non pas noire, pas elle noire. Mais c'est paix, elle était noire, noire, Côte d'Ivoire, et c'est paix noire. Elle fait des paix dans le soir, dans le noir. Et à bien y voir, ils ne sont pas mauvais, c'est paix. C'était en Côte d'Ivoire, mais elle n'était pas noire. Non, pas noire, pas elle noire. Mais c'est paix, elle était noire, noire. Côte d'Ivoire, c'est pas noir.
Cette œuvre, Made in Way, c'est tout simplement parce que depuis 76, donc à l'époque où j'ai commencé ma période chromatique, à cette époque-là, donc, j'ai pris l'habitude d'enregistrer tous les invités qui venaient manger chez moi. Je les enregistrais donc tout leur repas et j'ai constitué comme ça toute une bandothèque infiniment intéressante. Et donc après, lorsque les gens sont partis, je réécoute la bande, mais je ne les réécoute pas à l'endroit, évidemment, se réécoute à l'envers. Car la phonétique, le verbe, offre des richesses absolument insoupçonnables à l'envers et non à l'endroit. Donc de ce fait, je réécoute toutes ces bandes à l'envers, je prélève la phonétique ou le rythme qui m'intéresse et ensuite je constitue une œuvre musicale avec toutes ces bribes. Ces bribes qui forment une sorte de dilution des repas faits par mes amis, dilution du verbe, et donc c'est pour cette raison que j'appelais ça mais dilué.
Mieux vaut vivre grand que mourir lâche. Mieux vaut vivre lâche que mourir grand. Ailleurs qui parle de mourir.
Toute l'humanité était contenue dans les couilles du premier singe. Normal, loi de la mémoire. Mais les autres singes, que contenaient donc leurs couilles ?
Itinéraire numéro 4, Hervé Gadras. Musique, Edgar Varèse, Désert. Captain Biffart, Light Reflected of the Oceans of the Moon. Et Hervé Gadras, avec par ordre d'apparition, Benjaminus, 1979, période noire. Léo, extrait de Tranche en quatre formes, 1978, période kaki. Perdition rectifiée pour 6 instruments, dont 2 en panne, 1976, période kaki. Congola, 1982, période beige. Sentiment d'attache ou architecture d'hélice, 1980, période beige. Fréquence aléatoire pour médias contrôlés et séparatistes basques, 1983, période miel. Sergent précis, 1979, période bleue. Pouac, extrait de la bande sonore du film pour 4 spectateurs. Pouac de Léopold Franco, 1982, période ocre. Mais dilué, 1983, période bleue. Chant qui parle de mourir. Côte d'Ivoire. Le jour où les machines, premier et deuxième mouvement, de Hervé Gadras. Interprété par Lila Poun, voix, et Guy Grudzien, piano. Texte, étalonnage, esquisse, manifeste, poème Mélo, dit du bonheur, et autres pensées de Hervé Gadras. Conception et réalisation, Pierston Belflac, Léopold Franco et Lila Poun. C'était une production de la Stico Fondation.
Les campagnes régissent.